7h03 à Boulevard 102.1, vous êtes dans Gravel dans le retour. Beaucoup de questions qui reviennent par texto. J'ai l'impression que les gens sont quand même curieux. Là, on parle du budget Girard depuis 16h15, depuis sa sortie. Puis Antonine, j'ai le goût de diriger cette question-là vers toi parce que j'ai pas la réponse. Bonjour gang, pardonnez mon ignorance, t'es pas seul. J'aurais une question pour vous. Quand un gouvernement donne, exemple, un budget de 10 millions sur 5 ans, puis que le gouvernement est plus en place après quelques mois, est-ce que le nouveau gouvernement doit honorer ce qui a été mis en place aujourd'hui?
La réponse simple, c'est pas nécessairement. Donc, un gouvernement, quand il y a un changement de parti au pouvoir, a toute la latitude pour changer les budgets. Là, parce que sinon, ce qui arriverait, c'est que vous et moi, là, on se fait élire, là, puis on fait un budget, puis avant de partir, là, on sait qu'on va perdre, là, on verrouille tous les budgets pour que nos idées à nous, finalement, continuent d'être déployées. Donc, non.
Mais ça fait-tu en sorte que c'est un peu n'importe quoi les chiffres qu'on a entre les mains?
Oui, puis non. C'est-à-dire qu'il y a quand même un coût politique. T'sais, par exemple, si je dis, moi, je vais donner 20 millions par année sur 5 ans aux banques alimentaires, bien, c'est sûr que si tu arrives et tu dis, bien, je coupe ça, bien, c'est ce qu'on appelle une coupure. Donc, il y a un coût politique à tout ça. Mais non, un gouvernement qui arrive en poste a la latitude de faire des changements budgétaires. D'ailleurs, cet automne, bien, s'il y a un changement de gouvernement, le budget Girard, il est pour un an. Donc, normalement, en théorie, il tient. Mais il y a une mise à jour économique
absolument
en
mois de
novembre.
Hein?
Et il peut y avoir certains ajustements qui sont faits à ce moment-là, s'il y a vraiment des priorités qui sont très, très différentes de celles
de M. Girard. Hein?
Ou des aberrations.
Peut-être vous rappeler que dans ce qui est sorti un petit peu plus tôt aujourd'hui, on prévoit que le déficit pour 2026-2027 sera de 8,6 milliards de dollars. Fait que, on se pète un peu les bretelles en disant qu'on laisse la maison en ordre. Vous comprendrez que les oppositions s'en donnent à cœur joie, considérant que le dernier gouvernement qui avait dit « on laisse la maison en ordre », c'était le gouvernement de Philippe Couillard avant que la CAQ soit élue. Puis le déficit était de…
0 $.
C'est quand même une grosse différence. Puis je comprends qu'il y a eu… différents challenges économiques. Mais à un moment donné, il faut revenir de 2021-2022.
C'est ça, il faut arrêter le saldo large un peu. Là.
Saldo très, très large. Je dois aussi me rétracter parce que tantôt, on vous a parlé du 300 millions de dollars pour le tramway de Québec. Puis je disais, bien, c'est super, on va sortir de la portion planification et passer à la portion réalisation du tramway de Québec. C'est faux. Les 300 millions de dollars font quand même que le projet demeure en planification et non pas en réalisation. Ça veut dire que le projet de tramway de Québec est à la même place que, par exemple, le fameux troisième lien Ish. Je vous annonce que là aussi, les oppositions, mais au niveau municipal, vont pouvoir s'amuser énormément avec ça. En fait, même si on le met là-dedans, là, on dit qu'il y a quand même un montant dans le PQI qui est réservé. Ça, c'est l'enveloppe globale pour les dépenses, entre autres, dont on parlait tantôt de transport en commun de 1,2 milliard. Mais
encore.
On ne sait pas quel montant. Puis il y a beaucoup, beaucoup de projets qui peuvent rentrer là-dedans. Puis qu'actuellement, dans le fond, les sommes, c'est pour les travaux préparatoires qui ont cours, qui commencent. Je vous rappelle qu'on répondra aux questions des citoyens sur le projet Tramcité pour les travaux de l'ouest de la ville, secteur Chaudière, tout ça, au mois d'avril. Ça a été annoncé aujourd'hui par la Ville. Bien hâte de voir la réaction du maire Bruno Marchand. Par contre, il y a un stress qui est inexistant sur le projet de tramway versus le projet de lien Interrive. C'est que tous les partis, sauf un, s'entendent sur le fait qu'ils sont d'accord avec un projet de tramway.
Ouais.
Fait que ça, ça fait que même si c'est un autre parti qui est élu, en fait, si c'est le Parti libéral ou le Parti québécois qui est élu au mois d'octobre, il n'y a personne qui va mettre la hache dans le projet de tramway.
Le combat va rester le même.
Ben, en fait, il va se modifier quelque peu. Par contre, pour ce qui est du lien Interrive, ben, on est dans une autre situation.
Ah, oui,
que Charles Milliard est un petit peu plus enclin par rapport au Parti québécois.
Ils vont le recevoir, d'ailleurs, Charles Milliard, demain matin pour commenter tout ce qui est budget, si jamais ça vous intéresse, dans Marceau le matin. On parle de ce qui se passe un peu sur les routes. Lien boiteux pour nous amener vers Samuel Tremblay-Michaud, qui est chroniqueur automobile. Sam, j'ai pas le choix de te poser la question. Nous autres, écoute, ça rentre tellement vite qu'on dirait qu'on peut pas tout voir. Là. Niveau automobile, y a-tu des montants qui peuvent être intéressants? On a beaucoup parlé de pour les véhicules électriques, entre autres. On est où, mettons, avec tout ça? Là?
Rien de majeur par rapport à ça, ce qui veut dire que la subvention qui était attendue pour le provincial sur les véhicules électriques à 2 000 $ actuellement, avant les taxes, va se rendre jusqu'en fin 2026 et qu'ensuite, elle va terminer là.
Ciao, ciao, Mégamar. Salut, ouais, Sam, en passant.
Exact. Bonjour. Bonjour.
On est tellement dans le budget ben à gauche oui. à droite que là, on prend les informations.
Sur cette fois, je arrivé sur, comme un cheveu sur la soupe. C'était parfait.
Fait qu'il n'y a rien de hot, finalement.
Non, pas de ce que j'ai compris aussi. C'est tout chaud, tout frais, tout ça. Mais de ce que je comprends, c'est qu'en 2027, la subvention va être terminée pour les véhicules électriques, du moins du provincial. C'était l'annonce qu'on s'attendait aussi, honnêtement.
Pas
aucune surprise, avec ça. Parce que je crois que le gouvernement du Québec en avait déjà fait une bonne partie avec les subventions provinciales. Le fédéral est revenu avec le 5 000 $ cette année, va continuer à donner une subvention jusqu'en 2030. Donc, je pense que les gouvernements se sont assez impliqués dans la transition énergétique qu'est les véhicules électriques.
Puis on le voit, le choix est en train de se faire par les consommateurs, ouais. par les acheteurs qui ont un changement de véhicule à effectuer. Ouais. Là. Fait que je pense que le coup de pouce était là. Puis tu nous as parlé aussi qu'on commence à voir des baisses de prix qui se sont faites naturellement du côté des constructeurs.
On commence à le voir dans les promotions que les constructeurs ont fait, mais on le voit aussi dans les produits qu'on veut importer de plus en plus également au pays. Je vous ai parlé du Kia V4 en décembre que je suis allé essayer. Voiture électrique autour de 41 000 $ 400 km d'autonomie.
Ouais.
C'est des chiffres qu'on n'avait vraiment pas v'là 5 ans. Là.
C'est un prix de véhicule à essence.
Donc, on voit vraiment que ça avance. Kia vient de mettre la hache dans le Niro EV pour faire place au EV3 qui s'en vient, qui va être encore moins cher. Mais... Chevrolet ramène la Bolt. On sait que Nissan a une livre actuellement qui est assez abordable, mais qui devrait peut-être avoir d'autres variantes plus abordables
celle
encore.
Celle qui a un petit nouveau look, ça?
Oui, la livre de troisième génération qui est beaucoup plus sérieuse, très honnête comme véhicule. On verra la fiabilité maintenant. Mais ce qu'on voit surtout, c'est que les constructeurs bougent et que le marché s'installe quand même assez bien pour les véhicules abordables électriques.
Mais on peut-tu espérer des véhicules abordables dans le genre de 25 000 éventuellement ou on n'est pas là?
Je pense qu'il va toujours falloir être réaliste sur une chose. Un véhicule électrique va toujours demeurer un produit plus onéreux à produire et c'est pas dans la prochaine année qu'on va réussir à avoir un coût de production équivalent avec une voiture à moteur thermique. Donc, la réponse officielle à ça, c'est que je ne crois pas. Je pense qu'on va toujours devoir payer plus cher, mais quand on regarde l'essence à 1,80 actuellement, ben c'est drôle parce que c'est toujours une cause à effet. Hein. T'sais, il y a quelques mois, les voitures électriques avaient tellement perdu en popularité, puis drôlement, de ce temps-ci, on dirait qu'on ressent la vague. C'est un peu cliché parce que c'est un impact direct. T'sais. On met de l'essence dans l'auto, on voit que ça coûte plus cher, donc là, on a de l'intérêt pour la voiture électrique. Mais pourtant, la solution est là depuis déjà des années. Là. Donc,
mais ça nous prend ça, des fois, le petit coup de pied dans le derrière, de se dire comme, OK, là, je vais prendre le temps de faire les pour et les contre.
Les calculs, voilà.
Tu l'as dit, on dirait qu'il y avait comme un certain recul. Puis là, tu vois, c'est sorti dans l'actualité un peu plus tôt aujourd'hui pour planifier justement la demande d'électricité des 5 prochaines années. Hydro-Québec estime que le nombre de véhicules électriques va être multiplié par 5. Et donc, passerait de 492 000 cette année à 2,4 millions en 2031.
Ouais.
Tu vois-tu ça aller? Toi, il me semble que non. C'est...
Non, moi, je crois pas à ça. Je pense
c'est trop ambitieux?
Oui, je pense qu'Hydro-Québec sont trop ambitieux avec cette donnée-là.
C'est peut-être mieux, par exemple? Là, pour.
Oui, mais en même temps, tu sais, faut mettre des chiffres à mener sur quelque chose dans cette transition-là, puis il faut se donner une chance d'avoir à aller la transition. Donc, moi, je pense que oui, les véhicules électriques vont prendre en popularité. Oui, on devrait en voir plus. Mais est-ce que les véhicules électriques vont se rendre jusqu'à 2,4 millions d'ici 2031? J'y crois pas. Je pense qu'on va être proche, quand même. Dans le sens qu'on va évoluer, on va monter là-dedans. On parle beaucoup des véhicules chinois aussi.
Ouais.
Les véhicules chinois électriques qui devraient arriver aussi avec beaucoup d'ambition.
Ça va donner un coup de main.
Je vous ai déjà dit souvent aussi que moi, je crois pas aux 49 000. Là, on parle du fameux 49 000 véhicules. Moi, je pense que dès qu'on va ouvrir la porte un peu, la Chine va prendre tout ce qu'il peut. Donc, fait que j'ai comme l'impression qu'on va arriver proche de ce chiffre-là si la valeur des produits diminue.
Il y a probablement dans ce que Hydro-Québec a sorti, par contre, je pense qu'il y a une espèce de réponse à la critique en général. Tu sais, cet hiver, quelques reprises, on s'est fait dire « Hey, il y aurait eu un risque de délestage à cause des pointes de demande. » Puis, collectivement, ça a fait « Hey, vous nous incitez à prendre des véhicules électriques. Vous n'êtes pas foutus de nous fournir de l'électricité. » J'ai l'impression de planifier plus haut. C'est une manière aussi de répondre à cette critique collective.
Mais,
oui.
Est-ce que le réseau est prêt, tu sais?
Mais... Tout est une question énergétique. Je pense qu'au Québec, c'est des choix qu'on devrait faire. De l'électricité, on en produit. Puis dans tous les cas, l'argent qu'on va mettre dans notre hydroélectricité, tu sais, payer notre électricité, c'est de l'argent qui va rester ici aussi. Tu sais, des fois, on parle du coût énergétique. Tu sais, il y a des gens qui vont dire « Ouais, bien là, l'électricité va coûter plus cher. On va monter les tarifs pour les voitures. » Oui, vous avez tout à fait raison. On a vu aussi des frais sur les immatriculations de véhicules électriques qui ont été augmentés. Tu sais, bon, on s'attend à ce genre de redevances-là à donner de plus. Ça, je m'attends à ça. ça. Mais maintenant, on peut se dire aussi que l'argent qu'on va mettre dans l'électricité des voitures, bien, au moins, c'est pas de l'argent qui va aller à autre monde.
Ben,
et je pense qu'il y a une prévisibilité aussi dans l'électrique que l'essence n'est pas capable de nous donner. L'espèce de yo-yo et de prix toujours à la hausse, à la baisse. Il y a quelqu'un qui prend une mauvaise décision quelque part. Ça vous coûte plus cher faire un plein d'essence. Mais ça, on va peut-être avoir un meilleur contrôle collectivement avec cette énergie-là. Donc, est-ce qu'on est prêt à accueillir cette demande-là? Pas partout. Clairement, les centres urbains, on a des questions à se poser sur la faisabilité de la recharge individuelle. Je pense que les recharges publiques vont devenir une option pour les centres urbains, mais j'ai l'impression que dans le milieu résidentiel, dans les banlieues, la voiture électrique va devenir quelque chose de très rentable rapidement.
Le deuxième char. On nous souligne ça, entre autres, sur le texto. Là. Si ça devient relativement abordable, on devrait viser les familles qui ont deux véhicules, ce qui est souvent une majorité des familles, puis qu'un des deux véhicules soit un véhicule électrique. C'est plus logique. Là.
Bien, à 100 %. Et tu sais, présentement, ayant moi-même ma petite flotte de voitures, j'utilise principalement mon véhicule électrique. Là.
Ouais.
Je m'en fais un plaisir coupable là, de me dire tous les déplacements que je vais essayer de faire, je vais les faire électriques.
Le plus possible.
Parce que ça va me donner une chance d'avoir une économie de carburant qui va être substantielle et ça va donner un coup de pouce au portefeuille familial.
Mmh. Puis on s'adapte vite en passant. Là, je veux dire, il y a des inquiétudes encore pour quand tu dois faire de la route. Je m'en irais pas sur la Côte-Nord avec mon char demain matin.
Non, définitivement dès que pas. Tu t'en vas dans des régions où il y a moins de bornes, tu te rends compte qu'il y a un line-up pour pouvoir faire ton plein, entre guillemets, tu te rends compte qu'effectivement, il y a ses limites.
Ouais. Non,
mais en ville, c'est sympathique.
C'est pas parfait pour tout le monde non plus. En même temps, c'est une question d'habitude. Tu sais, tu dis, tu vas aller sur la côte. Non, tu serais capable de te charger Audrey pour te rendre. Faut juste que tu planifies en conséquence.
Faut que tu planifies en petit.
Mais pas tant que ça.
Mais attends.
J'ai fait la route là, en novembre. J'ai vu des bornes à grandeur de la côte nord jusqu'à cette île. Il y en avait à tous les coins. Ça se trouve. C'est juste une question de patience puis de temps que tu es prêt à mettre là-dedans.
C'est ça. Faut que tu te fasses un méchant itinéraire. Puis
tu fais pas
faut
ça
pas
souvent.
Qu'il arrive. Ben, c'est ça l'autre affaire, mais faut pas qu'il arrive de bémol. Tu sais, je fais beaucoup la route Saint-Raymond-Québec. Là. Puis je me suis comme rendu compte que à tester les limites, faut tout le temps que tu t'assures d'être plein. Là. Parce qu'à tester les limites, si tout d'un coup, il y a du petit trafic ou que t'es pogné ou que c'est là que c'est plus tannant dépendamment des secteurs. T'as raison, tout se fait. Puis, tu sais, je vais rien t'enlever si je me trompe pas. C'est-tu en vacances que t'as fait ça?
Oui.
Bon, ben c'est le fun en vacances. C'est pas tant grave s'il arrive de quoi, tu sais.
Oui.
Mais si, mettons, il y a un objectif puis t'as pas de l'attitude, j'ai l'impression que c'est là que les gens sont frileux.
Absolument. C'est juste que, tu sais, on garde le. Puis, tu sais, toutes les statistiques appuient ça. 95 % des gens qui utilisent leur véhicule électrique le rechargent à la maison. Tu sais, je parle, la recherche se fait à la maison.
Oui,
on est toujours en train de voir le scénario catastrophe de « je m'en vais faire de la grande route, puis là, je vais sur la grande route, puis ça va être compliqué de me charger. » C'est un mensonge qu'on se donne à nous-mêmes.
De plus en plus d'immeubles facilitent l'installation des bornes.
Oui, puis de plus en plus de bornes rapides sont disponibles également. Tu sais, ça peut prendre une quinzaine de minutes de charger une voiture. Je suis pas en train de dire que c'est la solution pour tout le monde. Je suis en train de dire que, oui, présentement, on sent une vague de popularité retourner vers ce genre de véhicule-là. Et j'ai l'impression que, rapidement, avec ce qu'on a maintenant comme données, il y a plus en plus de gens qui vont se poser la question « Pourquoi je le ferais pas, le changement vers l'électrique? »
On change de sujet après la dernière question que j'ai, parce que là, tu viens de titiller de quoi? Tu viens de dire « Ça peut charger en 15 minutes. » C'est-tu moi qui n'ai pas compris de quoi? Parce que moi, c'est minimum 45 minutes. Là, je comprends qu'il y a trois niveaux.
Toi
là.
C'est toi qui ne charge pas bien.
OK, parce que le niveau 2... Sérieux? Niveau, ben là, c'est ça. OK, je ne suis pas folle. Bon,
non, mais t'es folle. Tu ne sais pas comment charger.
Attends! Attends, il y a trois niveaux de bornes. Je suis pas folle?
Oui.
Bon.
Il y en a plus que ça, là.
Mais non, OK, ben mettons le de base. Ben, moi, je vois les Tesla qui se chargent, là. J'ai pas d'adaptateur pour cette affaire-là. Oui. Mais après ça, quand je me charge, mettons, dans la majorité des bornes autour, c'est autour de 45 minutes, moi, remplir mon char. Puis, t'as des bornes où ça te prend 11 heures.
Oui.
J'ai laissé mon char dormir à quelque part il y a une couple de jours parce que je suis tombée sur, je pense, c'est niveau 1 ou niveau 3, je sais plus, là.
Oui.
Et, fait que lesquels? Que ça prend 15 minutes, puis j'ai manqué un bout.
Là. Ce qu'il faut que tu regardes, c'est ta capacité de recharge maximum que tu peux faire avec ton véhicule. Un Kia Niro EV, comme tu possèdes, devrait faire une recharge rapide aux alentours de 150 kW. 150 kW, ça veut dire que tu pourrais prendre une borne de 180 kW, puis cette voiture-là, ta voiture, serait capable d'aller chercher jusqu'à 150 kW de rapidité de recharge. Je vais essayer de faire ça simple, là. C'est comme tu as une grosse borne avec un gros tuyau d'énergie, puis ton char peut en accueillir une bonne quantité. Si tu vas sur une borne, admettons, 250 kW ou 300, ben, ces bornes-là vont te donner ton 150 tout le temps au maximum de ta capacité. Mais ton véhicule, il faut qu'il soit géré de manière efficace. Donc, une température de batterie optimisée. Il y a des outils
batterie,
pour chauffer la batterie qui sont dans le véhicule. Oui. Tu peux aussi essayer de viser ce que tu veux faire comme recharge. Admettons que tu es sur un trajet Québec-Montréal, il te manque, 45 km pour te rendre à ta destination. Tu n'es pas obligé de te stationner pendant 45 minutes pour atteindre 80 % de ta batterie. Tu pourrais te donner un 20 % supplémentaire, te rendre à ta destination et sur place faire une recharge s'il y a une borne de connecter avec l'hôtel.
OK, mais la charge complète prend pas 15 minutes, on s'entend. Là.
Non, mais 15 minutes, ça va te, mettons, pour une borne efficace. Mais tu sais, un Niro comme le tien, de 10 à 80 % de sa charge sur une bonne borne devrait te prendre une demi-heure à peu près. Tu as une batterie de 64,8 kWh. Fait que comment que tu arrives toujours complètement vide aux bornes?
Ou je choisis pas, ah oui, souvent.
Ben c'est ça, si t'arrives complètement vide aux bornes dans des températures froides puis que ta voiture n'est pas préconditionnée...
Audrey est la personne que je connais qui a vu plus souvent l'escargot apparaître dans son dash.
Ah oui, ben moi, c'était une tortue, puis elle est pratiquement là aux deux jours.
Il faudrait que tu surnommes quelqu'un, tu peux donner un de son nom.
Je savais, pour vrai, là, je suis pas tout le temps intelligente, j'apprends.
Oui, oui, non, mais c'est une apprentissage. C'est
de l'adaptation, je vous le cacherai pas.
Puis quand tu roules juste sur les bornes électriques publiques, c'est plus de sport encore. Mais donc, il faut que tu regardes les bornes. Si tu prends une borne de 50 kW, tu prends une borne qui est trois fois moins rapide que ce que ton véhicule peut accepter.
Fait que normal que ça prenne une éternité.
Exact. Hein. Tu peux aller chercher une borne de 180 kW pour aller chercher du meilleur jus.
Sais-tu quoi? Je me rends compte, Sam, que quand tu achètes un véhicule électrique, là, ils te proposent d'aller faire un petit cours 101. Moi, je me suis dit, voyons, on n'a pas besoin de ça. Ouais. J'aurais peut-être dû y aller.
Oui, vraiment.
Donc, on va aller ailleurs, on va prendre mon rendez-vous. On veut parler pour les gens qui sont véhicules à gaz. C'est Véro qui a une idée, j'ai trouvé ça tellement intelligent. Les habitudes au volant qui permettent de vraiment diminuer ta consommation d'essence. Parce que là, avec le contexte géopolitique, entre autres, ça coûte cher. Là. Le gaz monte. On a des périodes en haut, en bas.
Les line-up au Costco en fin de semaine, c'était
ça, c'est
fou.
Tellement niaiseux. D'ailleurs, le monde reste sur le gaz, bien allumé, dans la file pour aller gazer moins cher. Je trouve ça tellement épique.
Ça me rire parce que tu me dis 45 minutes pour charger ton auto, mais ça prend à peu près ça faire la file pour aller mettre du gaz chez Costco.
Autre
mais
ironie.
En tout cas, ça, c'est un autre sujet.
Au moins, l'appel les magasiner pendant que ça charge. Les autres sont dans la file.
Au moins, tu peux faire d'autres choses.
On n'est pas cohérent. Hein,
non, il y a le fait d'incohérent, mais je comprends les gens de faire la file parce que ben, c'est fâchant de payer plus d'argent. Mm-hmm. J'ai ramené un Chevrolet Equinox à essence en début de semaine à Montréal. J'ai rechargé à 1,87,9. Moi, j'ai dit recharger mon carburant, mais j'ai rempli mon réservoir de carburant à 1,87,9. Ça m'a coûté 95 $ remplir le Chevrolet Equinox que j'avais à l'essai, qui est un VUS compact familial assez simple,
c'est
avec
standard,
un petit moteur
là. Oh, ouais.
Très standard. Puis là, tu te dis 95 $ pour avoir fait à peu près 450 km d'autonomie. Je trouve ça épouvantable. T'sais, c'est beaucoup de sous, là. Ça coûte vraiment cher. Donc, je comprends les gens de faire la file. Puis effectivement, il existe encore des bons vieux trucs pour essayer d'économiser avec nos véhicules thermiques.
Parce que là, le baril a dépassé le 110 $.
Oui, j'ai vu 111 là. Juste avant de rentrer. Là, j'avais une dernière notification à 111. Donc, on va voir le gaz monter encore dans les prochaines heures, c'est sûr. Tout est une question d'habitude, encore une fois, mais en termes de conduite. Tu sais, quand on dit rouler vite,
ouais.
Tu sais, quand on roule vite, c'est vrai que ça fait une différence sur votre consommation de carburant. C'est pas un mensonge. Il y a même des chiffres qui le disent. Hein, si, exemple, vous êtes sur l'autoroute, vous roulez à 120 km/h habituellement, vous diminuez votre vitesse à 100 km/h, vous devriez diminuer votre consommation d'essence d'au moins 20 %.
Hey, ça paraît, là.
C'est énorme quand tu y penses une seconde, là, tu sais, dans le sens que c'est de l'essence que tu jettes par les fenêtres. Oui, tu vas sauver du temps, mais il faut juste que tu saches qu'en roulant plus vite, tu consommes plus cher aussi.
Le fameux temps, c'est de l'argent, là. Soudainement, tu peux comme virer l'expression de bord.
Absolument. Anticiper les mouvements de la circulation aussi est une technique intéressante. Tu sais, quand on est sur un boulevard puis on voit toujours un peu les voitures qui accélèrent trop rapidement pour se rendre à l'autre lumière rouge, mais dans le fond, les feux sont synchronisés à 50 km/h.
Ils nous apprenaient ça littéralement quand on faisait nos cours de l'éco-conduite.
L'éco-conduite, ça fait partie des bonnes techniques qui sont super intéressantes. De toute manière, vous n'allez pas aller plus vite, mais je vous comprends. En passant, là, je dis ça comme si je ne le faisais pas. Je suis le premier, des fois, quand je suis dans le trafic, penser qu'en écrasant plus vite, je vais me rendre plus vite, mais dans le fond, je suis arrêté quand même à la lumière. Je le fais souvent encore. J'ai encore de très mauvaises habitudes.
C'est des réflexes.
Mais oui, c'est vrai que ça aide à la consommation de carburant parce qu'une voiture à moteur thermique, contrairement à une voiture électrique, est beaucoup plus économique lorsqu'elle est à une vitesse de pointe. Donc, lorsqu'on conserve le plus possible un niveau de régime moteur stable, lorsqu'on fait des accélérations et qu'on joue justement avec le régime moteur, c'est là qu'on va faire augmenter notre consommation de carburant le plus possible. Donc, si on arrive vite à la lumière, ça veut dire qu'on a fait monter beaucoup de notre régime moteur, on le fait descendre rapidement, puis on le refait monter lorsque la lumière vire verte. Donc là, on consomme plus de carburant.
Nous autres, tu vois, nous avons pas parlé de ça, mais nous avons appris que quand tu voyais, mettons, la lumière au loin qui s'en venait, d'arrêter de mettre du gaz,
oui,
de te laisser aller, puis d'attendre, puis d'essayer de pogner la lumière juste quand tu as l'air viré pour que ton moteur ait comme jamais arrêté.
Bien, c'est le principe de garder un régime moteur à un bon rythme, justement. C'est un très bon truc aussi, là.
Il y a, je sais pas si tu en as d'autres, Sam, que tu veux nous partager. Il y a une question question d'auditeur après ça que je vais te poser.
Ben, vas-y, on peut faire du...
Le cruise control, ça aide aussi.
Le cruise control, moi, j'adore l'outil, justement, pour, encore
une fois... Ah oui, ça prend pas plus de gaz?
Non, parce que souvent, ça, c'est l'erreur aussi qu'on pense, c'est que les cruise control, justement, vont essayer de travailler à garder une vitesse moteur stable. Si vous roulez 140, oui, il va coûter plus cher de gaz.
Parce que RPM est dans le piton.
Exactement, mais si vous roulez une vitesse normale, comme exemple 100 km/h sur l'autoroute, c'est vrai que le cruise control va vous éviter de faire des réaccélérations constantes. Moi, j'aime même le cruise control régulier, donc le régulateur de vitesse qui n'est pas adaptatif. Celui qui est adaptatif a tendance à toujours nous faire ralentir lorsqu'on va rattraper une voiture en avant de nous. Puis lorsqu'on dépasse, bien là, va nous faire réaccélérer. Donc là, on joue avec le régime du moteur et donc fait augmenter la consommation de carburant un petit peu plus. C'est minime là, entre les deux régulateurs de vitesse, mais quand même, oui, c'est un outil intéressant. Ce que j'aime aussi, puis c'est une affaire qu'on a vu passer, là, c'est les fameux fermer les moteurs lors des arrêts prolongés. On a vu les systèmes que Donald Trump a décidé d'enlever, de la réglementation américaine du transport. On disait les voitures devaient tous être munies d'un système d'arrêt moteur aux lumières. Donc, lorsqu'on arrive à la lumière, le moteur se coupe par lui-même. Lorsqu'on repart, le moteur se rallume, dans le fond. Ça a été aboli par l'administration Trump il n'y a pas longtemps, il y a quelques semaines. Mais ce système-là aidait réellement l'économie de carburant. C'était pas juste magique, là. C'est vrai que ça donnait un coup de pouce.
Mon Dieu, c'est tellement niaiseux. C'est des mythes et réalités, dans le fond. Mais moi, j'avais l'impression que ça prenait plus d'énergie, mais de gaz, de rallumer le char.
Les systèmes, au départ, n'étaient pas bons parce qu'ils nous arrêtaient tout le temps, constamment, quand c'était des petits arrêts. Mais les systèmes ont commencé à être un peu plus peaufinés dans les 5 dernières années, je devrais dire. Et là, ben, quand on arrête puis qu'on est capable d'arrêter pendant une bonne période de temps, mettons 10-15 secondes, c'est prouvé qu'effectivement, ça consomme moins d'essence que de laisser virer le moteur au idle, en bon français, là, de le laisser virer au régime neutre.
Question pour toi, d'auditeur, qui nous écrit « La mère de mon garçon se cherche une voiture avec un budget de 5 000 $. Est-ce que tu as des suggestions de modèles à regarder? » On est dans le vieux véhicule, là.
Oui, bien, effectivement, on va dans le véhicule d'occasion. Là, j'apprends rien à personne. Il y a des petits modèles intéressants encore qui existent, par contre, dans le créneau. Puis 5 000 $, il faut se dire que c'était l'argent qu'on mettait auparavant pour avoir un véhicule plus étudiant ou une voiture.
Ça existait encore.
C'était 1 000 $ qu'on mettait avant, là, mais maintenant, on est à 5 000, mettons. Là. Et il existe encore quelques produits qui peuvent être intéressants. 5 000 $, c'est serré, mais je pense à des produits coréens comme, entre autres, la Kia Soul, genre de véhicule qu'on oublie trop souvent.
Ça a été mon char préféré. Je l'ai eu pendant pas loin de 7 ans. Audrey Pinchot, regarde-toi donc à la face. Non, c'est pas vrai.
Je vais défendre Audrey. Moi, je le trouve pas très
moi,
beau.
Moi, j'adore la Soul, donc c'est 2 contre 2.
Adoré la Soul. Ouais. Il y a de la... Tu sais, le coffre est petit, mais dès que tu baisses les bancs, c'est absolument fantastique. Ouais. J'ai eu une confiance aveugle en ce véhicule-là, puis je l'aurais usé à la corde si j'avais eu l'opportunité.
Il y en a partout encore sur les routes aussi, donc c'est des véhicules qui se sont prouvés durables. Allez chercher, s'il vous plaît, un 2014 en montant, deuxième génération, on a vraiment amélioré beaucoup de choses dans le véhicule, beaucoup plus sérieux, beaucoup plus solide, beaucoup plus sécuritaire, puis on va être capable d'avoir une consommation de carburant qui va être très raisonnable, et vous devriez être capable de trouver un exemplaire pas trop dur, encore en bon état, autour de 5-6 000 $, là, ça devrait être dans votre budget. Mazda 3 GX 2014 aussi, modèle GX qui est d'entrée de gamme à la berline. Bon petit moteur, 4 cylindres, 2 litres, car active. Vous devriez être encore une fois dans ces eaux-là.
Hey, t'es-tu tout seul la nuit? On voit, je t'écoute.
C'est incroyable. Parce que ceux qui en doutent, là, Sam, il fait ça de mémoire de même. Là.
Il a pas envoyé une question avant, vous nous les textez là.
Ouais, mais ça prend deux choix que je regarderais, honnêtement. Là, deux bons petits chars qui peuvent être très durables.
Dernière question qui vient d'entrer. Est-ce que vous pourriez demander à Sam son avis sur la Toyota Sienna hybride AWD 2026? J'ai besoin d'espace pour la famille. J'aimerais une auto fiable avec consommation d'essence raisonnable.
Bravo! Allez-y, c'est un très bon choix. Ouais. Bravo, bravo. C'est exactement ça que je veux entendre. Des familles qui veulent des vannes, allez-y. C'est une excellente idée. La Sienna, j'adore les vannes. Je trouve que c'est des produits qui sont bien ficelés. La Sienna, elle est sérieuse dans son approche. C'est un produit AWD qui est 4 roues motrices. Mais on a un bloc hybride avec un 2.5 qu'on connaît depuis toujours. Ça va avoir une excellente valeur de revente et la consommation de carburant, autour de 6.5 litres au 100 pour une vanne de 7 places. Dur à battre.
T'es
vraiment,
un grand fan, hein?
Vraiment dur à battre. Donc, moi, je vous le conseille fortement. Il y a son jumeau cosmique maintenant, le Grand Highlander chez Toyota, qui est aussi intéressant quand même en termes de mécanique. Mais sachez qu'il va consommer plus quand même, vu que c'est un VUS. Donc, allez chercher la vanne, c'est une bonne idée.
C'est la Toyota Sienna hybride AWD 2026.
All-wheel drive.
Merci. Oh yeah. Anto?
Saviez-vous que c'est la voiture dans laquelle se promènent les ministres?
Oui.
Hein?
Oui.
Tu sais, on entend souvent qu'ils sont en limousine. Je vous annonce qu'ils sont en Sienna.
Arrête.
arrête.
Noir. Ils ont des petits phares là, sur le côté des pare-chocs à l'avant en arrière, puis ils roulent vite souvent sur l'autoroute 20.
Ah oui, ils ont le droit aux autres.
Oui, j'ai
fallait que tu le plugues, hein?
Oui, mais j'ai remarqué.
En passant.
Ouais, ouais, ça fait quelques années d'ailleurs hein, qu'ils ont ça, parce qu'ils oui. ont... mais ils n'ont pas toujours eu ça.
En fait, c'est qu'il y a pas mal de ministres qui ont des familles et qui se plaignaient que les voitures de fonction n'étaient pas pratiques quand il fallait transporter non seulement des employés politiques, mais aussi leurs enfants à l'école et à la garderie.
C'est vraiment pas fou. Voilà. Sam Tremblay-Michaud, chroniqueur automobile, on peut toujours te trouver sur Facebook. Tu réponds encore? Là, t'es trop occupé peut-être?
Non, j'ai répondu encore à deux auditeurs qui ont pris la peine de me dire qu'ils écoutaient des chroniques à Boulevard puis qu'ils trouvaient ça le fun. Je te le dis, ils ont pris la peine de m'écrire, j'ai répondu aujourd'hui.
Toutes les fois que tu viens nous voir, j'ai l'impression de me transformer en passionné auto.
C'est fun, hein?
Il est tellement contagieux. Moi, je connais rien là-dedans, mais moi aussi, j'ai l'impression que ouais, tu viens nous chercher, puis je t'assure que tu viens chercher les auditeurs aussi, parce que généralement, quand on annonce que tu t'en viens, les questions s'en viennent. Fait que si on n'a pas eu le temps de vous répondre, je vous redirige vers sa page Facebook, Samuel Tremblay-Michaud. Il n'y en a pas 8. Vous allez le retrouver. Sam, je te souhaite une belle fin d'après-midi. Benjamin, qui est avec toi, on le salue aussi. Il était calme. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu Benjamin en studio.
Mon garçon de 5 ans avec nous. Il n'a pas dit un son. Je suis très fier de lui.
Oui, très bien. Je pense que ta blonde t'attend.
Oui, probablement. Flongien.
Je te souhaite une belle fin de journée. Sam, merci beaucoup. On se retrouve bientôt. Je vais juste retourner sur les routes rapidement parce que ça a été une difficile journée, j'ai envie de dire, sur le réseau routier de Québec. Là, il y a encore quelques problèmes sur la capitale Est, hauteur Robert Bourassa. Si vous êtes dans le coin de Val-Bélair, Henri IV Nord, entre Sainte-Geneviève et l'avenue industrielle, particulièrement au ralenti, des problèmes également sur Henri IV Sud à partir, je vous dirais, de chemin Sainte-Foy jusqu'à l'entrée des ponts. Même chose, Duplessis. Et tabarnouche.
Du Plessis. Mais je comprends, c'est une L'autre nouvelle route, Audrey. Ça a été inauguré cette semaine.
L'autre bretelle.
Sois habituée.
L'autre bretelle à côté d'Henri IV. Du Plessis, direction sud.
D'amour. Du Plessis sud.
Du Plessis sud. Entre chemin Sainte-Foy et donc le pont Pierre-Laporte, difficile également.
C'est comme les chemises de l'archiduc.
Chantelle-Chèche sous Charchichèche. Et la 20, direction ouest, entre chemin des Îles et Taniata. Autre chose, 88-971-1021. Texto, on revient.
Gravel. Au salon plein air québec.ca.
Hey, depuis tantôt qu'on parle de serre à ceinture, faire attention à notre argent, vous êtes en plein magasinage de lunettes. Si vous n'avez toujours pas fait le détour par Lunetterie Bellan, vous allez payer plus cher, c'est sûr, parce que chez Lunetterie Bellan, c'est le meilleur prix garanti. Des forfaits monture et verre, 99 $ pour des simples visions, 249 $ pour des progressifs. Puis là, vous dites, ouais, mais tu sais, le genre de monture. Non, vous allez trouver les mêmes produits qu'ailleurs, les mêmes grandes marques. Ça va juste être moins cher. En fait, les mêmes produits, c'est trois fois moins cher pour les montures, même celles de designer. Vous magasinez des lunettes pour vos plus jeunes, puis là, vous voulez qu'il y ait du choix parce que vous voulez qu'ils les aiment et qu'ils les portent. Plus de 400 choix de montures. Ils vont certainement en trouver une à leur goût. Puis à ce prix-là, peut-être que vous allez pouvoir acheter la paire pour l'école, mais aussi la paire pour le sport qui risque d'y passer pas mal plus rapidement. Dans la région, il y a 3 succursales pour vous servir. En tout, au Québec, c'est 17 succursales, donc c'est la force du réseau pour le prix. Vous pouvez vous rendre à Sainte-Foy, à Val-Bélair ou à Lévis. Lunetterie Bellan, service qualité bas prix.
La vente étiquette rouge est de retour. Découvrez le Toyota BZ 2026 prêt à prendre la route avec encore plus d'autonomie pour aller toujours plus loin. Encore plus de puissance pour une expérience de conduite exaltante. Et un temps de recharge rapide optimisé avec le préconditionnement de la batterie. Comptez sur plus de 25 ans d'expertise avec les véhicules électrifiés. Obtenez jusqu'à 12 000 $ en rabais gouvernementaux et incitatifs clients. Pendant la vente étiquette rouge, visitez achetezmatoyota.ca ou votre concessionnaire Toyota du Québec pour toutes les conditions.
Vous déménagez bientôt? Simplifiez-vous la vie avec Soumission Déménageur. Un seul formulaire vous permet de comparer gratuitement jusqu'à 5 prix de compagnies de déménagement fiables et certifiées. Rapide, simple et partout au Québec. Soumission Déménageur, plus de 150 entreprises à votre service.
Un bon repas pour juste 8,99 $, ça existe-tu? Chez Tim, oui. Obtenez un wrap délice bien rempli, plus des quartiers de pommes de terre et un Coke pour juste 8,99 $. Profitez-en, c'est pour un temps limité. Taxes en suit dans les Tim participants au Canada, des conditions s'appliquent.
Non, c'est pas bruyant. Ben non, tes chums vont pas te juger. Puis on s'en fout du look. C'est pour dormir, anyway. Puis c'est bien moins dérangeant que tes ronflements.
Pour retrouver un bon sommeil et pour retrouver votre énergie, cliniquedusommeillessard.com.
Ici Nathalie Clark, porte-parole pour Miville Climatisation Chauffage. Profitez du confort d'une thermopompe murale ou centrale de marque Mouvert, classée numéro 1 par Protégez-vous, grâce à Miville Climatisation Chauffage. En tant qu'agent autorisé, Miville vous offre une installation professionnelle rapide et garantie. Économisez sur vos factures d'énergie et profitez de subventions pouvant réduire vos coûts d'achat. Subventions admissibles, renseignez-vous chez Miville.ca. Mouvert et Miville Climatisation Chauffage, le duo gagnant pour votre maison.
C'est le moment ou jamais de vous procurer une Mazda 3 2025 chez Lévis Mazda. En ce moment, on vous l'offre à, tenez-vous bien, 87 $ par semaine avant taxe avec un léger acompte en location sur 48 mois. Venez l'essayer, vous allez voir que le plaisir de conduire une Mazda, c'est pas une invention du gars de la radio. On est ouvert du lundi au vendredi jusqu'à 20 h. On vous attend chez Lévis Mazda. C'est bien connu, on s'occupe de vous.
Gravel, dans le retour.
Un gros show.
Je suis un homme de radio, vous savez.
Gravel, dans le retour.
Boulevard 102.
Bon, ben c'est terminé pour le ciel bleu et le soleil. On aura eu notre passe aujourd'hui. Ça fait du bien au moral, je trouve. Je sais pas vous autres, mais moi, ça joue énormément. Présentement, on est à moins 8 ressentis, un genre de moins 13 à l'extérieur. C'est plus chaud que ça a été aujourd'hui. Spécial, pareil.
J'espère, Moses, il faisait moins 22 à matin ressenti.
Ah, c'est quelque chose. Le vent,
tu
depuis hier...
Les narines te collaient.
Ça fait mal, hein? C'est épouvantable. Donc, moins 8. Alternance sur les nuages, je vais vous dire nuages. Il y a des moins 11 prévus pour cette nuit partiellement nuageux. Demain, on est à zéro. Faible neige intermittente selon Environnement Canada. On parle d'un moins 1 vendredi avec la neige également. Le soleil qui serait de retour samedi. Alternance soleil-nuage avec un 1 degré. Dimanche et lundi, on est à zéro avec des genres de 50% de possibilité d'averses de neige. Et mardi prochain, ce serait le retour du soleil à zéro degré. Si je regarde sur les routes, encore quelques problèmes sur la capitale direction est à la hauteur de Robert Bourassa. L'entrée des ponts direction sud, que vous arriviez de Duplessis ou d'Henri IV, c'est toujours congestionné. Et le petit reste est sur la 20 direction ouest à la hauteur de Chemin des Îles. Si vous voyez autre chose, c'est simple, c'est le 88 971 1021 texto. Il y a le numéro de téléphone aussi, là. Je ne vous ai pas beaucoup nommé ça aujourd'hui, mais 780-1021, vous n'hésitez jamais si vous avez envie de jaser.
Ça va un peu vite pour le téléphone.
Oui, bien c'est ça, j'ai envie de dire. On peut prendre le temps, là, mais ça risque pas d'être la jasette la plus élaborée. Il y a les différentes façons de nous rejoindre aussi avec les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, la chaîne YouTube. Le X, on est sur Twitch, twitch.tv, BLVD, barre en dessous FM, une belle communauté qui est là pas mal tous les jours. Vous pouvez vous joindre. Et j'allais encore nommer Blue Sky, mais
Mais pourquoi tu as un mauvais pli de main? Jamais
pas.
Dans l'année, tu ne parles jamais de
non.
Blue Sky, à moins que tu sois derrière la console.
Ouais, puis on dirait que ça me vient, j'ai une envie de le mettre de l'avant. Je ne sais pas pourquoi.
Pour les auditeurs, dans le studio, parce qu'on travaille des fois avec des gens qui oublient, puis je m'inclus là-dedans, il y a une belle petite feuille pour nous joindre avec les numéros de texto, de téléphone, nos plateformes. Mais Audrey met son ordinateur sur la petite feuille. Fait qu'elle fait tout ça de mémoire, ouais. Et sa mémoire a, genre, tu sais, quand tu fais un mauvais pli sur un vêtement, puis il s'en va pas.
C'est comme, le chemin, il est là, je peux comme pas l'éviter, je me sens mal de le... Mais c'est parce qu'on en a un, mais il sert à rien. Mais il est là, tu sais.
Personne qui consulte Blue Sky.
Mais imagine qu'on a une vague d'abonnés, peut-être que je vais me remettre à publier là-dessus,
une vague,
je sais pas,
une personne?
mettons que j'en ai 10, là, je me remets à publier notre contenu. L'application Boulevard, gratuit, prend pas de place sur le téléphone, je vous la conseille également, si vous faites de la route, là, ça vous permet de nous pas mal de partout en tout temps. Et il y a les notifications qui vous informent de ce qu'on a en ondes qui peuvent être pertinents. D'ailleurs, on a parlé beaucoup de budget aujourd'hui.
C'est ça qui prend toute la place.
Ça prend toute la place. Et je dois vous dire qu'on a jasé avec Francis Gosselin, docteur en économie. Si vous voulez réécouter ça, c'est sur le blvd.fm. Je sais que la gang de Marceau le matin, demain, vont recevoir Charles Milliard pour commenter.
Chef du Parti libéral,
pour commenter le budget, si jamais vous avez envie d'avoir des angles différents. C'est là que ça se passe. Véro, peut-être nous faire un recap, oui. Un genre de tournée de ce qu'on a qui peut potentiellement nous toucher, là, version budget. Là.
D'abord, ce qui attire l'attention, on attendait de voir quel était le déficit parce qu'au courant des dernières années, la CAQ a pris le pouvoir, le déficit du Québec était à zéro. On a monté ça jusqu'à un 13 milliards qui a finalement été revu dans une mise à jour. Et là, wouhou, on est passé en bas du 10 milliards de dollars. Fait qu'on est content, mais à 8,4 milliards, ça laisse de grosses, grosses traces. Puis souvent, quand on arrive avec un budget, un dernier budget avant des élections, c'est là où on va être plus fantasque, on va essayer de s'arranger, d'aller chercher les électeurs, qu'on va faire des cadeaux. Là, j'ai l'impression qu'on est dans un budget d'abandon. On s'est retrouvé dans une position où on n'est pas capable de rien donner à l'électeur, puis on fait comme, hey, voici, on rend les arbres. Je ne sais pas si Antonine, tu le vois de cette manière-là
aussi.
On n'a
pas les moyens de faire des cadeaux en ce moment. Le plat de bonbons est vide. Moi, je vais quand même donner un peu l'autre côté de la médaille sur les déficits. Parce que moi, je vois le mandat de la CAQ, les deux mandats de la CAQ du point de vue financier en 4 temps.
Oui.
Et le problème est surtout dans le premier temps. Okay? Donc, le premier temps, c'était les surplus libéraux.
2018-2022, ça allait bien, l'économie allait bien aussi.
Jusqu'à la pandémie, mm-hmm. on avait de l'argent, on a baissé plein de taxes, plein de tarifs. Tout ça, c'est oublié, hein, mais il faut se rappeler, là, il y a eu des baisses de taxes scolaires, il y a eu des baisses d'impôts, on a limité le prix des stationnements des hôpitaux, des CHSLD.
Tu faisais partie des choix judicieux. Est-ce que tous les choix étaient judicieux dans ces dépenses-là?
Moi, je pense que de remettre un peu d'argent dans la poche des gens, c'était une bonne idée, mais on disait davantage oui, parce que t'es ministre des Finances et t'as des surplus, c'est dur, là, de dire non à ses collègues, aux autres ministres qui disent « moi, c'est ma priorité qui est importante ».
T'as comme pas de bonne raison d'être austère.
C'est difficile, et en plus, la CAQ avait été dans la deuxième opposition. Donc, même pas l'opposition officielle, deuxième groupe d'opposition. Et pour réussir à se mener, à se hisser vers le pouvoir, il y a eu beaucoup de promesses en nombre, mais aussi en ampleur. On promettait beaucoup, beaucoup de choses. Donc, on n'a pas été fourmis, on a été cigales.
Oh, que c'est bien dit.
Et quand la brise fut venue, bien, il n'y en avait plus d'argent. Donc là, ensuite, ça a été la pandémie. Ça a demandé beaucoup de dépenses et ça a été pareil dans tous les parties du monde. Hein. Il y a eu des déficits après la pandémie partout. Donc ça, c'est pas la faute à Éric Girard. Mais c'est sûr que quand on part de surplus, si on avait été un petit peu plus conservateur au départ, on aurait eu les reins plus solides pour faire face aux crises. Donc pandémie, ensuite inflation et les tarifs de Trump l'année passée.
Il y en a qui diraient que si l'argent avait été mieux investi, par exemple, dans les hôpitaux, peut-être que la crise de la pandémie aurait frappé moins fort. Peut-être que...
Oui, mais le sous-investissement en santé, est-ce qu'on peut vraiment l'attribuer à la CAQ?
Absolument pas. Ça, c'est... Il aime bien ça, ce terme-là. C'est systémique.
C'est systémique.
Chez tous les partis.
Et c'est cyclique aussi. Mais tu sais, ce qui est dommage pour eux, puis je sais que personne ne va pleurer sur leur sort, mais c'est qu'il y a beaucoup de belles choses et des choses très sexy et le fun pour les citoyens qui ont été faites au début du règne de la CAQ, et là, se retrouve à la fin et a plus, finalement, d'argent pour faire plaisir aux gens. Et c'est comme si on avait oublié. Tu sais, l'année passée, il y a eu tout un scandale sur une coupure de quelques centaines de millions, importante quand même dans le réseau scolaire. Mais la CAQ a investi beaucoup plus que les gouvernements précédents. Mais ça a été oublié, des milliards qui ont été oubliés parce qu'on a voulu faire une coupure en fin de mandat. Donc, stratégiquement, là, c'est comme s'ils avaient mal utilisé leur réserve de début de mandat.
Tu sais, s'il y en a qui ont trouvé ça difficile, justement, les coupures des derniers mois, il faut savoir que les dépenses sont limitées à une hausse de 1,6. On veut aussi freiner les dépenses en limitant la croissance à 2 par année. Mm-hmm. Là, bien sûr, la CAQ risque de ne pas être là pour les prochaines années. Fait que c'est bien beau de s'engager, mais vous comprendrez que ça, c'est dans le calcul du retour à l'équilibre budgétaire qu'on a présenté un peu plus tôt aujourd'hui et qui se maintient dans ce qu'on avait... annoncé il y a à peu près un an de ça.
Est-ce qu'on pourra avoir un retour à l'équilibre budgétaire avant 2029-2030?
Ce serait surprenant. Avec un déficit comme celui-là, même si des partis se présentent comme étant des champions de l'économie, à moins qu'il y ait une croissance incroyable du PIB. Tu sais, mettons, parce que là, on est en train d'investir beaucoup dans la défense, tout ça, puis on a l'impression que c'est le Klondike, là, qu'on a trouvé notre mine d'or. Mais tu sais, tous les pays font ça actuellement. Tous les pays investissent exactement dans ces créneaux-là. Fait qu'on n'a pas d'exclusivité. Je comprends qu'on a des avantages comme des minéraux critiques, une couple d'éléments comme ça, mais c'est pas... Tu sais, on n'a pas trouvé un gisement de pétrole ou de diamant. Là.
Bien, pour réussir à résoudre le déficit, il faut soit que tu augmentes tes revenus. Donc là, ça passe par l'économie qui va mieux ou une augmentation de taxes et d'impôts.
Ce qui plaît pas au monde, c'est pas chic. Là.
Ou tu dois couper dans les dépenses. Donc, pour atteindre l'équilibre budgétaire très rapidement, ça peut faire très, très mal en coupure de services. Tu sais, les beaux surplus libéraux dont on parlait tantôt, là, je veux juste vous dire, quand les libéraux sont partis, on disait pas qu'ils laissaient la maison en ordre. On disait qu'ils avaient foutu le bordel dans le réseau des garderies. Mm. Ils avaient coupé, je me rappelle, ils avaient coupé des subventions pour des chaises roulantes pour les personnes handicapées. Tu sais, je veux dire, il y avait des aberrations là-dedans. Aussi. Donc, aller très rapidement pour le retour à l'équilibre budgétaire, ça se fait pas là, sans casser des œufs.
On parle de budget puis de tout ce qui touche l'argent. Puis Véro, tantôt, tu m'as envoyé, je suis en train de regarder ça, là, sur le site de Radio-Canada,
un calculateur de
budget.
Si vous voulez pleurer un peu pour savoir où va votre impôt.
Si
là.
Vous avez envie de voir où va votre argent, c'est vraiment bien fait. En fait, vous rentrez carrément nombre d'adultes du ménage, nombre d'enfants mineurs, votre salaire brut, deuxième salaire brut. Et là, ben tout ça se calcule là, dans la charge fiscale et compagnie. Et il y a la répartition des contributions. Fait que vous voyez, au moment où on se parle, où va votre argent
précisément. Mettons un 40% de ce que vous donnez en impôts qui s'en va dans la santé.
Ouais.
Puis là, tu sais, j'entends des gens dire « Ouais, mais j'ai même pas de médecin de famille. » Comment ça se fait qu'il y a 40 % de mon impôt qui va là, puis je suis pas foutue d'avoir un bilan de santé annuel?
Ah, même quand t'en as un, ça prend à peu près 6 mois le rejoindre, ouais. Fait que ça devient frustrant, mais l'exercice est intéressant. T'sais, on n'arrête pas de se dire depuis tantôt, OK, mais les impacts d'un budget sur notre portefeuille, où ça va, bien, ça peut peut-être être une façon intéressante d'avoir un visuel par rapport à ça.
Oui, c'est un outil que vous allez trouver sur la une du site de Radio-Canada. Sinon, parmi les autres éléments, je vous ai parlé de limiter la croissance des dépenses malgré tout. Les deux postes budgétaires les plus importants, la santé et l'éducation. Croissance de 4,1% en santé, croissance de 2,4% du budget en éducation. Dans les éléments qu'on surveillait, tu sais, pour ce qui est des contribuables, il n'y a pas de chèque, il n'y a pas de nanane, il n'y a pas de baisse d'impôt. En fait, ce qui va toucher plus le commun des mortels, c'est quand, entre autres, on va se retrouver avec de l'aide pour les rénovations, le réno-climat, réno-vert, ça va rentrer à l'intérieur de tout ça. Ceux qui sont dans des secteurs qui sont inondables, bien, on va aider à financer certains mécanismes pour limiter les dégâts. Fait que le climat, mettons, fait sa place de cette manière-là. Fait que c'est des petits items. Tu sais, hier, on s'est parlé des places en garderie qui ont été converties. C'est sûr qu'il y a des personnes qui vont pouvoir bénéficier de ça. Fait que ça va être un certain allègement pour une fraction de la population. Mais tu sais, on n'est pas dans des grands mouvements qui vont faire que, wow, il va y avoir des solutions à court terme. Mais d'un autre côté, plus tu mets de l'argent, plus tu donnes de l'argent, plus tu as un risque de faire monter l'inflation. Fait qu'il y a une espèce de cercle vicieux d'une manière ou d'une autre par rapport à ça.
À part tout ce qui touche le budget, j'ose poser la question, est-ce qu'il y a autre chose dans l'actualité ou c'est vraiment une éclipse?
Je vais juste visser le bout. C'est une éclipse. Franchement, c'est vraiment, c'est toujours une éclipse, le budget, puis c'est un peu calculé de cette manière-là. Sur le tramway de Québec. Mmh. Parce qu'il y a un 300 millions qui se retrouvent dans le budget, mais c'est toujours pour les travaux préparatoire. Fait qu'un peu plus tôt, moi, j'étais persuadée que ce 300 millions-là permettait de changer de phase. Tu sais, quand tu as un projet au gouvernement, tu vas être budgété sur une dizaine d'années, puis tu vas avoir la phase planification préparatoire, puis réalisation, puis tous ces éléments-là. On n'est toujours pas dans la phase réalisation. Bien hâte de voir la réaction du maire Bruno Marchand en lien avec ça, parce que ça place le tramway à la même moseuse de place que le lien intérif. Par contre, on sait que les partis qui risquent de prendre la place de la CAQ sont pour ce projet-là, fait que le financement, parce qu'il y a une portion de financement qui est quand même dans le PQI, on ne sait juste pas l'ampleur.
Il n'a pas encore réagi, le maire Marchand.
J'ai pas rien non, vu passer encore.
Non plus, il était censé. Oui, il est en Alberta, puis il était censé réagir à l'écrit aux alentours de 17h15.
Sur Blue Sky.
Oui, voilà, allez nous suivre. Non, mais sans blague, on n'a rien vu encore. Il est censé, par exemple, réagir avant le début de la soirée. Là, fait suivre, là.
Tu vois, je suis dans les courriels au cas où. Là, je vois certaines réactions de part et d'autre d'organisations, mais pas rien de la part de l'hôtel de Ville de Québec. D'ailleurs, je vous glisse au passage que plus tôt aujourd'hui, on nous a annoncé qu'il y aurait une présentation des chantiers de 2026 à l'ouest du tracé, donc les secteurs de Chaudière et Plateau de Sainte-Foy, parce qu'il y a des travaux qui débutent sous peu. Il y a des changements, c'est en fin de semaine que les changements du RTC vont arriver en plus de ça. Donc, c'est une espèce de porte ouverte qu'on dit. Ça va permettre à chacun de s'informer sur les détails des travaux à venir, sur les conditions locales de mobilité, le transport en commun, les interventions de foresterie urbaine. On sait qu'il y a une grande passion pour les arbres.
Oui!
qui est arrivée comme ça là, dans les dernières semaines et les derniers mois à Québec.
Des écologistes convaincus.
Je repense aux gens qui sont sur le long du tracé, qui étaient là aussi à l'époque du SRB. Et à ce moment-là, c'était la même affaire pour le tracé. Les mêmes arbres étaient menacés. Il n'y a pas un chat qui disait rien. Puis il y avait eu un mouvement de la population. Il avait fait des écharpes pour leurs arbres, pour dire « Hey, ça n'a pas de bon sens, on est dans un secteur qui a un certain âge, c'est tellement long d'avoir des arbres matures. » Puis à l'époque, je me souviens qu'il n'y avait pas eu beaucoup de réactions de la part des gens qui restaient à l'extérieur de cet arrondissement-là.
Puis là, on en parle full.
Ouais.
Ben, tu peux te découvrir une passion pour...
C'est vrai. Avec le Audrey temps, vient de découvrir
oui.
Star Wars.
Ben, oui. En vieillissant.
Ça a pris des décennies. Mais...
Une sorte d'affaires qui viennent avec le temps.
Oui.
Là.
Des fois.
Ça se prévoit pas. Là.
Une espèce d'illumination comme celle-là. Dans l'histoire des hommes qui sont accusés de terrorisme dans la région de Québec, il y a 3 hommes qui devront faire face à la justice un peu plus tard cette année. Parmi ceux-là, il y avait le chef de ce groupe-là, Marc-Aurel Chabot, qui, lui, est toujours derrière les barreaux. Il y en a un
qui avait été libéré avec des conditions, somme toute, assez sévères, Simon Angéodette. Mais là, aujourd'hui, c'était le troisième, Raphaël Lagacé, qui tentait de convaincre le tribunal de le remettre en liberté. Celui-là a été refusé, devra donc attendre son procès derrière les barreaux. Il va revenir devant le tribunal au mois de mai en prévision d'un procès devant jury dont les dates, elles, n'ont toujours pas été déterminées. Ensuite de ça, vous rappelez que ça fait jaser des deux côtés de l'océan. Le chanteur Patrick Bruel qui est visé par au moins deux plaintes. Une qui serait une plainte pour viol, une autre pour harcèlement sexuel puis agression sexuelle. C'est ça, agression sexuelle et tentative de viol, et l'autre pour viol. Mmh. Une qui aurait été déposée la semaine dernière à Paris, une autre qui aurait été déposée en 2024 à Saint-Malo. Bien sûr, lui, par la voix de son avocat, dit qu'il n'a jamais cherché à contraindre quiconque à un acte sexuel. Selon l'agence France Presse et le média qui a sorti l'information, il y aurait six autres femmes qui auraient eu des histoires aussi à raconter. Fait que c'est un dossier qui est en développement. Et en terminant, mine de rien, pouvez-vous croire qu'il y a encore des gens au Québec qui n'ont pas d'électricité suite au grand vent? Ça s'est amélioré beaucoup. Un peu plus tôt aujourd'hui, on était à 23 000 et des poussières. On a diminué depuis ce temps-là à 6 600. Mais malgré tout, dans la capitale nationale, il y a toujours 65 adresses où ce soir, on va être créatif pour le souper. Et encore 53 adresses dans Chaudière-Appalaches.
C'est aussi long, hein?
C'est souvent des secteurs qui vont être un petit peu plus loin. Tu sais, comme par exemple, les 65 adresses, c'est quand même 8 interruptions différentes. Fait qu'il faut travailler sur chacune de ces interruptions-là pour être capable d'aller récupérer des abonnés qui n'ont pas le courant à ce moment-ci. Puis tu vois,
gâtez-vous donc les 65, là. Allez donc manger au resto à soir, essayer de...
C'est plate. Mais c'était quand même... Ça a été intense, là. On a dépassé le 300 000 abonnés hier qui n'avaient pas de courant à travers la province. Ça a été du stock.
Mmh. 88-971-1021. Merci, Véro. Encore des problèmes, je vous dirais, sur les routes. C'est seulement à la hauteur du pont Pierre-Laporte si vous êtes sur Henri IV Sud. Là, le dernier ralentissement qui reste commence à la hauteur de, je vous dirais, chemin Sainte-Foy. S'il y a autre chose, vous n'hésitez pas. Vous êtes dans Gravel dans le retour. Pour ceux qui se posent la question, vous avez entendu la douce voix de Véronique Bergeron.
Allô.
Je m'appelle Audrey-Antonine Iacarini qui est là également. Denis va être de retour demain en congé aujourd'hui. Pas pour la semaine, vraiment juste une journée en plein milieu comme ça. Fait que on le retrouve à partir de 14h. Nous reste quelques minutes ensemble. On revient dans les prochaines.
Gravel.
Trop cher. La ville de Québec et sa région, c'est une destination qui attire des touristes du monde entier. Beaucoup d'Américains, entre autres, vous en rendez compte dès que vous vous promenez en ville. Puis ça se voit par l'ajout de nouvelles routes qui proviennent des États-Unis qui sont offertes par United ou American Airlines. Même si vous ne désirez pas aller en vacances ou en voyage d'affaires aux États-Unis, ces nouvelles routes-là, bien, ça nous permet d'accéder au monde entier en prenant un vol de connexion dans l'une des grandes plaques tournantes, que ce soit Chicago, Philadelphie, Newark dans la région de New York, Dallas ou encore Charlotte en Caroline du Nord. Puis là, il y a une autre plaque tournante majeure, ce qu'on appelle un hub en anglais, qui s'ajoute cet été, Washington. Cet été et cet automne, il y a beaucoup de vols qui vont être offerts, rendant le monde encore plus accessible que jamais au départ de Québec. Après tout, voler au départ de YQB, c'est choisir parmi plus de 35 destinations accessibles par vol direct au fil de l'année. Pour en savoir plus, décollezdequebec.ca ou encore demander à votre conseiller en voyage de voler au départ de Québec.
Vous entendez?
Ça donne l'énergie, ça, hein?
Dernier petit bout pour finir.
7h56, vous êtes dans Gravel dans le retour.
J'ai le goût de réécouter Pulp Fiction.
Ouais, c'est ça, hein, Pulp Fiction. Ouais. Est-ce que Confidence, jamais écouté?
Ah, tu peux le mettre sur ta liste.
Ah ouais?
Ah oui.
C'est un rattrapage de vieux films, puis de vieilles bébelles, puis classiques.
Tu sais que j'ai failli t'acheter, Yvan, un calendrier, pas un calendrier, mais un tableau sur Internet, tu sais, un peu comme un gratteux, là. C'est tous des films classiques à voir. Fait que tu le grattes, puis il faut que tu regardes ce film-là.
Là, j'ai un amoureux qui s'occupe de ce volet-là,
oui,
parce que je suis vraiment pourrie.
Fais bien ça. Dernier classique. Tu peux regarder Silence des agneaux, finalement?
Il arrête pas de me tanner pour qu'on regarde ça.
Mais oui, mais tu dois.
Mais ça a l'air. Ouais, mais c'est ça,
dark,
ça a l'air
épeurant.
Ça a l'air. Il m'a fait écouter Jaws, là. T'es
pareil, on n'est pas dans la même ligue.
T'es correct. Mais tranquillement, mais sûrement, je vais y venir. Mais Pulp Fiction, jamais écouté encore, va falloir... Achète-le-moi!
Le calendrier?
Oui!
Ben, je pourrais, là.
J'aimerais vraiment ça. Ma fête en avance, mettons, là.
Mais
je sais pas si
c'est au mois de décembre, ta fête.
Ouais, elle vient de passer.
Juste.
Ça vient juste... C'était hier, là, tu sais. Ça fait pas trois mois, déjà.
Je me trouverai une excuse.
Les galeries de la capitale. Je veux qu'on en jase. J'ai vu ça passer aujourd'hui, qui vont offrir des heures d'ouverture prolongées à partir du 16 mai.
Oui, parce que c'est le projet pilote du gouvernement qui a été élargi au provincial, parce qu'il y avait certaines municipalités, dont Saint-Georges-de-Beauce, qui permettaient de prolonger les heures d'ouverture des magasins qui n'étaient pas des magasins alimentaires, en fait, s'ils le souhaitaient. Fait qu'ils pouvaient ouvrir de 6 heures 10h à 21h, sauf les jours fériés. Fait qu'il y avait comme une espèce de latitude, alors que la fin de semaine, les commerces étaient contraints par la loi de fermer à 17h. Fait que là, on laisse plus de latitude. Fait que selon le type de commerce, tu dis, hey, moi, ma clientèle est matinale ou moi, ma clientèle veille plus tard le soir. Bien, ça te permet de déterminer pour répondre aux besoins, c'est quoi ton horaire?
Je trouve tellement que c'est une bonne idée parce que fut un moment où ça ouvrait pas à 10 heures, là, puis je sais pas si je suis seule, on en parlait, là, ouais. C'est tard, 10 heures.
10 heures, c'était pas nécessairement la loi qui faisait ça. Parce que, à part le dimanche c'était midi, à un moment donné, là, on a ajusté le tir, mais il y a eu un gros problème de main-d'œuvre dans tout ce qui était le commerce de détail, puis il y a certains commerces qui ont choisi de simplement repousser l'heure d'ouverture.
C'est-tu post-pandémie, ça, mettons, à cause de...
On est à peu près dans ces années-là, je te dirais, il faudrait que je revérifie, là, mais tu sais, des centres commerciaux qui ouvraient d'habitude à 9h la fin de semaine, donc en fait, hey, il n'y a pas un choix entre 9h puis 10h, on a de la misère à se trouver la main d'œuvre, on va le mettre à 10h.
Puis là, ça va être 9 à 18h.
Pour ce qui est des galeries de la capitale, ouais. Ça. Puis pour le Mégaparc, okay. Entre autres. Puis ça change la game pour des familles. Puisque, tu sais, c'était 10h à 17h. Mais, tu sais, t'as le goût, des fois, d'étirer ton après-midi ou encore de commencer ta journée plus tôt. Moi, je fais partie des gens qui ajustent leur horaire de commission en fonction des ouvertures de commerce. Vous allez me voir régulièrement dans des quincailleries puis des épiceries à 8h le matin.
T'es la première, là.
Oui, puis je comprends pas pourquoi les pharmacies ouvrent à 9h30. Ça m'insulte.
Détime.
Fait que là, tu sais, je suis obligée de commencer, mettons, la quincaillerie à 8h30, 8h45, l'épicerie pour arriver à 9h et des poussières à la pharmacie.
Bien là, regarde, à partir du 16 mai, du moins pour ce qui est des manèges, puis tout avec les enfants, vous allez pouvoir y aller un peu plus tôt. 9 à 18h, ce sera les autres. Mais moi, je suis pour qu'on ouvre de tout plus tôt.